Daniel Sabbag, bonjour.
Bonjour.
Je suis heureux que vous soyez ici avec nous pour nous éclairer sur le thème des discriminations, sur ce que ça recouvre, sur l'historique. Voilà. Est-ce que vous pouvez, sur le mot lui-même, est-ce que vous pouvez nous indiquer comment il faut réfléchir à cette notion ?
Alors, je vais commencer par le mot lui-même, comme vous m'y invitez. Et la première chose qu'il me semble utile de remarquer, c'est que ce mot est finalement assez récent. Et que ça n'est pas une notion transhistorique. C'est une notion qui a émergé à un certain moment et il est utile de s'interroger sur ses conditions de possibilité. Et parmi celles-ci, il me semble qu'il y en a trois. D'abord, il faut qu'on soit dans un contexte politique où l'égalité est valorisée. Sans valorisation de l'égalité, on ne désignera pas une inégalité comme illégitime. Or, la discrimination, c'est une inégalité illégitime ou illégale, ou les deux à la fois. C'est assez trivial, mais ça mérite quand même d'être rappelé. Deuxièmement, c'est une notion qui apparaît dans un contexte qui est celui d'un jeu à somme nulle. Autrement dit, les biens à répartir sont rares, et sans rareté, il n'y a pas non plus de discrimination, parce qu'il n'y a pas de choix difficile à mettre en œuvre. Et puis enfin, il n'y a pas de discrimination s'il n'y a pas de normes d'arrière-plan que la discrimination vient enfreindre. Je vais prendre un exemple que j'emprunte à Gwenaël Calves, mais qui me semble assez parlant. Si la femme que j'aime en aime un autre et me quitte, je suis victime d'un coup, je subis un coup de par une décision que je peux bel et bien attribuer à un individu, mais je ne suis pas pour autant victime de discrimination parce qu'elle n'enfreint aucune norme objectivable. Ou plus exactement, dans nos sociétés, la seule norme objectivable en la matière, c'est le libre consentement des personnes. Donc, pour qu'il y ait discrimination, il ne faut pas simplement qu'un individu subisse un coup du fait d'une décision attribuable à autrui, il faut aussi que cette décision vienne contrecarrer un principe communément admis. Alors une fois qu'on a identifié les conditions de possibilité de la discrimination, qu'est-ce que c'est ? Il me semble que de manière très générale, on peut dire que c'est d'abord un comportement ou une pratique qui est préjudiciable à au moins un individu et qui détermine la répartition de biens rares et qui se fonde sur la perception de cet individu comme appartenant à un groupe. Il n'y a pas de discrimination s'il n'y a pas d'identification de celui qu'elle désavantage comme membre d'un groupe. Il me semble que quand ces trois éléments sont réunis, l'individu est perçu comme membre d'un groupe, il est traité en tant que tel, il est traité d'une manière qui lui est préjudiciable, et qui lui est préjudiciable dans l'attribution de biens et de ressources rares. Voilà, là on a de la discrimination, au sens encore une fois le plus général du terme.
La discrimination n'est pas forcément raciale, et elle n'est pas forcément du racisme. Quel lien peut-on établir entre la notion de discrimination et le racisme ?
Alors, c'est un sujet évidemment fort controversé et les définitions du racisme abondent. Celle qui a ma préférence est une définition assez restrictive. Et il me semble que pour que l'articulation racisme-discrimination fonctionne bien, il faut réserver l'appellation de discrimination à des pratiques et à des comportements, et donc réserver l'appellation de racisme à autre chose que des pratiques et des comportements. Et là, il y a évidemment plusieurs options. La première, l'option peut-être la plus restrictive, c'est de voir dans le racisme une idéologie, c'est-à-dire un ensemble de croyances, un ensemble de propositions. Et si on adopte cette perspective, ce qu'il est parfois, à mon sens, justifié de faire, on va pouvoir énumérer ces croyances et ces propositions qui font que l'on adhère ou non au racisme. Alors, je les énumère très brièvement. Il existe des groupes raciaux. Ces groupes raciaux ont des propriétés visibles. Ces propriétés visibles reflètent des propriétés internes, non visibles. Ces propriétés internes déterminent le comportement des individus. Elles sont immuables à l'échelle d'une vie. Elles sont transmissibles d'une génération à l'autre, biologiquement. Et elles justifient l'établissement d'une hiérarchie entre les groupes raciaux. Si on considère conjointement ces propositions, on a, me semble-t-il, une définition acceptable du racisme. Une définition un peu moins restrictive, mais néanmoins souvent intéressante, c'est de voir dans le racisme un ensemble d'attitudes négatives à l'égard d'un individu déterminé par la perception de cet individu comme appartenant à un groupe racial. Attitude négative, c'est vague, hein, mais c'est délibérément vague parce que ça peut recouvrir des choses aussi diverses que la haine, la crainte, le mépris, le dégoût, la peur, voire une indifférence sélective aux intérêts légitimes d'autrui. Tout ça, ça peut être du racisme. Mais ce qui est important, à mon sens, c'est de ne pas appeler raciste des pratiques ou des comportements discriminatoires et d'avoir cette distinction-là. Toute discrimination raciale n'est pas nécessairement raciste si par raciste, on renvoie à des attitudes négatives ou à l'adhésion à une idéologie structurée. Et il me semble que l'intérêt, de durcir la distinction entre racisme et discrimination, c'est de permettre de penser l'existence de discriminations raciales qui ne sont pas automatiquement raciste au sens idéologique ou attitudinel du terme. Je vous donne un exemple. Et là, c'est vraiment des exemples classiques. Un chauffeur de taxi qui, à Washington ou à New York, ne prend pas d'hommes noirs habillés d'une certaine façon dans l'espace urbain. Il peut le faire pour plein de raisons différentes. Il peut le faire parce qu'il adhère à des croyances racistes ou parce qu'il a des attitudes de dégoût, de mépris, de crainte, etc. Il peut aussi le faire parce qu'il pense, à tort ou à raison, qu'il existe une corrélation statistiquement significative entre l'identité noire et la probabilité de commettre un certain type d'infraction, parmi lesquelles peut figurer le fait d'agresser un chauffeur de taxi. Et cette corrélation, aux États-Unis, elle existe. Elle peut être surestimée par le chauffeur de taxi, mais elle n'est pas purement illusoire. Dès lors que la personne en question agit sur la base de ce calcul, est-il réellement analytiquement et politiquement productif de le qualifier de raciste? Je n'en suis pas sûr. Pourtant, il commet un acte de discrimination raciale, qui est illégal, qui doit le rester, et qui produit des effets profondément néfastes sur les individus qui en subissent le coup et sur la société dans son ensemble. Mais il faut, me semble-t-il, pouvoir penser une disjonction entre la rationalité éventuelle d'un comportement, sa légalité, sa moralité, et là on a affaire à des phénomènes de discrimination raciale, illégaux, devant le rester, et qui néanmoins ne sont pas racistes à strictement parler.
Où se joue la distinction et où se chevauchent peut-être des notions comme celle de discrimination et de ségrégation? Est-ce que ce sont deux notions là encore totalement disjointes ou est-ce qu'elles se chevauchent?
Ce sont des notions, à mon sens, distinctes, mais évidemment connexes. Et la notion de ségrégation, elle est elle-même assez ambivalente, parce qu'elle renvoie à au moins deux significations distinctes. La première, c'est la ségrégation imposée par la loi. C'est l'assignation coercitive d'individus à des places ou à des positions dans l'espace social. C'est le système qui existait aux États-Unis jusqu'en 1954, qui existait en Afrique du Sud jusqu'aux années 90, connu sous le nom d'apartheid, où là c'est la loi qui impose la séparation dans un espace résidentiel, scolaire, des personnes selon leur identification raciale. Mais la ségrégation renvoie aussi éventuellement à une situation de fait, une situation de séparation qui peut ou non résulter d'une imposition légale. Donc, évidemment, le rapport entre ségrégation et discrimination, il varie selon le type de ségrégation et le type de discrimination dont on parle. Aussi, il a été aussi difficile aux États-Unis, par exemple, pour la Cour suprême d'invalider la ségrégation raciale, c'est bien parce que cette ségrégation n'était pas évidemment discriminatoire. L'argument des juges conservateurs, c'était de dire, écoutez, les enfants noirs n'ont pas le droit d'aller à l'école des blancs, mais les enfants blancs n'ont pas davantage le droit d'aller à l'école des noirs. Donc les deux groupes raciaux ne sont pas discriminés. Ils sont également confrontés à une contrainte, celle de devoir rester entre soi. Donc ce qui permet de considérer la ségrégation raciale comme une forme de discrimination raciale, c'est une interprétation, aujourd'hui communément admise, de la valeur expressive de la pratique en question. Mais cette valeur expressive, elle a été niée pendant très longtemps. Il a fallu des décennies de combats pour que les tribunaux américains, parce que c'est l'exemple qu'on évoque pour l'instant, acceptent que le sens social objectif de la pratique ségrégationniste, c'était une atteinte à la dignité des personnes et véhiculer un message intrinsèquement dégradant et stigmatisant. Vous n'êtes pas digne d'être assis aux côtés d'un blanc.